Eh bien, bonsoir à tous et bienvenue à l'Institut d'astrophysique de Paris. Alors, bienvenue à ceux qui nous suivent en direct et en différé sur notre chaîne YouTube. Et puis, bienvenue à vous tous qui êtes dans notre amphithéâtre. Alors, comme vous le voyez, notre amphithéâtre a été rénové. Donc, on est très heureux de vous accueillir dans ce bel amphithéâtre. Ça sent encore un peu le neuf. Ça fait plaisir. Voilà, donc on a eu toute une année, enfin, toute une saison où on était à l'effectif réduit, on était dans une petite salle au sous-sol, donc voilà. Désolé pour tous ceux qui n'ont pas pu venir en présentiel, donc à l'IAP pour nos conférences. Mais donc maintenant, on peut de nouveau accueillir plein de monde, donc de nouveau, vous êtes les bienvenus. Je vous annonce les conférences qui vont suivre, donc la prochaine, les inscriptions à partir de demain. Donc n'hésitez pas à vous inscrire nombreux, puisque nous avons de nouveau beaucoup de place pour accueillir les visiteurs ici dans notre institut. Donc notre prochaine conférence, le mois prochain, le 7 octobre, elle sera présentée par notre collègue Jean-Baptiste Fouvry de l'IAP, qui nous présentera une conférence intitulée « Comprendre l'évolution des galaxies avec la physique statistique ». Le mois suivant, le 4 novembre, alors nous aurons une soirée un peu particulière, parce que nous aurons un événement ce soir-là, voilà, je ne vous en dis pas plus. Et figurez-vous qu'à l'occasion de cet événement, eh ben, c'est moi-même qui aurai le plaisir de faire cette conférence. Voilà, donc, je suis très heureux de faire une conférence, de faire les conférences prestigieuses de l'Institut d'astrophysique de Paris. Et donc la conférence que j'aurai le plaisir de vous présenter s'intitulera « 30 ans et des milliers d'exoplanètes » puisque, comme vous le savez sans doute, enfin peut-être, nous célébrons cette année, enfin cet automne, les 30 ans de la détection de la première planète extrasolaire. Le mardi 2 décembre, nous recevrons un autre collègue de l'IAP, Sébastien Renaud-Pettel, qui nous parlera d'inflation, puisque cette semaine-là, nous aurons une conférence scientifique internationale toute la semaine où il y aura des spécialistes de l'inflation qui viendront discuter de cette thématique-là. Et à cette occasion, nous aurons une conférence publique sur cette thématique, donc présentée par Sébastien Renaud-Pettel. Et puis à la rentrée, François Hamer de l'Observatoire de Paris nous parlera des courbes de rotation de galaxies le 6 janvier, le 3 février. Nous aurons Jean-Philippe Usan. Vous pouvez voir donc toute notre programmation sur notre site web. Et ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Frédéric Daigne, donc de l'Institut d'astrophysique de Paris. Enfin, nous sommes collègues à l'Institut d'astrophysique de Paris. On en parlait, ça fait longtemps qu'on se connaît, puisque nous avons commencé à étudier l'astrophysique ensemble en master, quand ça s'appelait DEA à l'époque, il y a quelques années.
Plus ou moins à l'époque de la détection de cette fameuse exoplanète.
Exactement, ouais. Quelques décennies en fait même. Donc par la suite, tu as fait ta thèse à l'Institut d'astrophysique de Paris, tu as travaillé à Garching, à Saclay, puis tu es revenu ici comme enseignant-chercheur à l'IAP, comme maître de conférence puis professeur à l'université Pierre et Marie Curie, devenue Sorbonne Université. Donc tu enseignes dans cette université à différents niveaux de licence, de master. Tu enseignes également à l'École Polytechnique. Tes différents travaux t'ont valu d'obtenir la médaille de bronze du CNRS il y a quelques années. Tu as été également directeur adjoint de notre institut pendant quelques années, ce qui te donne une bonne connaissance de tout ce qui se fait à l'IAP. On est nombreux à se souvenir d'une présentation que tu avais faite dans cet amphi, ici même, à la craie, au tableau, où tu présentais toutes les thématiques de l'IAP. On est vraiment très nombreux à avoir un très bon souvenir de cette présentation. Je crois même qu'elle était filmée, donc on peut la revoir. Moi, il faudrait que je la revoie, je ne l'ai pas revue depuis cette époque-là.
C'est vrai,
je
me souviens
toujours. Très bon souvenir de cette présentation.
Je la conseille.
Et donc, ta spécialité, c'est l'étude des sursauts gamma, ouais. D'un point de vue théorique et également du point de vue des observations avec le satellite SVOM, dont tu vas nous parler ce soir. Donc, cette conférence, la mission SVOM et l'étude des sursauts gamma. Tu vas parler pendant une heure. De nouveau, donc à la fin, je donnerai la parole à la salle s'il y a des questions, des réactions. Les personnes qui nous suivent sur YouTube, en direct là seulement pour le coup, n'hésitez pas à mettre des commentaires, poser des questions sur le chat. J'essaierai de les retranscrire à la fin. Voilà, je t'en prie. Bien.
Merci beaucoup Guillaume pour cette introduction. Bonsoir à toutes et à tous. C'est vrai que c'est très agréable de retrouver notre bel amphi rénové. Donc je suis très content et puis je suis très heureux de démarrer avec vous ce nouveau cycle de conférences publiques. Et puis alors en ce début d'année académique, hein, c'est la rentrée pour tout le monde. Eh bien, il n'y a pas que l'amphi qui a été rénové à l'IAP. Je ne sais pas si vous avez remarqué sur ma page de titre notre logo modernisé. Et alors, je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui sont particulièrement attentifs et qui sont donc faits pour l'astronomie du ciel transitoire dont je vais parler aujourd'hui. Mais il s'est passé quelque chose pendant que je parlais dans la région du logo. Oui, vous avez peut-être vu quelque chose. Non ? Voilà, une étoile a disparu. Vous la voyez ? Et en fait, c'est de ça dont je vais vous parler ce soir. Et en fait, vous voyez tout le défi. C'est qu'il faut regarder en permanence et réagir très vite, sinon c'est trop tard. Et c'est ça qui est dur. Alors les étoiles, justement, eh bien, c'est un peu un des plus grands succès de la physique et de l'astrophysique au XXe siècle. au début du XXe siècle, on ne sait quasiment rien sur les étoiles, en particulier on ne sait pas combien de temps elles vivent, quelle est leur source d'énergie. Et en gros, à la fin du XXe siècle, on sait. Bon, il y a encore un certain nombre de choses à mieux comprendre, mais en gros, on sait. Et donc, en particulier, on sait aujourd'hui que les étoiles se forment dans la galaxie au sein d'énormes nuages de gaz dont le poids est suffisant pour qu'ils s'effondrent sur eux-mêmes et en se fragmentant forment des étoiles. Donc, à cause de cette fragmentation, les étoiles naissent en groupe. Et en fait, du fait qu'il y a beaucoup d'étoiles qui naissent en même temps, il y a même certaines étoiles qui restent liées à une autre étoile, et c'est pour ça que beaucoup d'étoiles naissent dans des systèmes binaires, ce qui est un aspect important de ce dont on va parler ce soir. Et puis ensuite, on sait comment les étoiles vivent, et si on prend par exemple l'exemple du Soleil, eh bien, essentiellement le Soleil, c'est cette énorme masse de gaz qui exerce sur elle-même un poids tellement intense que la pression et la température au centre sont colossales, donc au cœur de l'étoile, on a une température de plusieurs millions de degrés qui permet la fusion de l'hydrogène, l'élément majoritaire dans l'étoile, en hélium. Et c'est ça la source d'énergie du Soleil. Et ensuite, cette énergie qui est créée par fusion nucléaire au cœur de l'étoile est transportée jusqu'à la surface, essentiellement par les photons, et pour être rayonnée, c'est ça qui fait qu'on est éclairé par le Soleil. Alors, ces étoiles vivent, et en fait, c'est des systèmes très stables. Le Soleil va rester dans cette configuration pendant assez longtemps, mais quand même, au bout de 9 milliards d'années, donc il en reste encore à peu près 4, la moitié, eh bien, il n'y aura plus d'hydrogène, on aura tout consommé. Et donc, à partir de là, quelque chose va se passer. Essentiellement, comme on ne produira plus d'énergie, le cœur va commencer à se contracter sur lui-même, mais en se contractant, sa température va s'élever et on va atteindre une température suffisante pour démarrer un nouveau cycle de fusion nucléaire qui va cette fois transformer l'hélium en carbone et aussi un peu d'oxygène. Alors, pour des raisons un peu compliquées, au moment où cette transformation dans le cœur va avoir lieu, l'enveloppe, elle, va gonfler et donc le Soleil va devenir une géante rouge. Ça durera beaucoup moins longtemps, de l'ordre du milliard d'années. Et puis, de nouveau, rebelote, plus d'hélium, et donc le cœur se recontracte. Mais dans le cas du Soleil et des étoiles peu massives comme le Soleil, eh bien, on ne va pas avoir une contraction suffisante pour atteindre une température qui permettrait de déclencher un troisième cycle de fusion nucléaire. En fait, avant d'atteindre ça, il va se passer autre chose. La matière va devenir tellement dense que les électrons vont entrer dans un régime très bizarre, un régime quantique qu'on appelle le régime de dégénérescence. Et ce régime s'accompagne d'une agitation qui n'est plus thermique, mais quantique, qui est une source de pression, et dans le cas du Soleil, une source de pression suffisante pour que la force pressante équilibre le poids et qu'on trouve une nouvelle configuration d'équilibre. C'est une configuration d'équilibre très bizarre. On a déjà un objet très compact, très dense, parce que typiquement, on aura 70% de la masse du Soleil dans à peu près la taille de la Lune. Ce qu'on appelle une naine blanche, et c'est déjà un objet assez exotique. Alors le reste, les 30% restants, c'est l'enveloppe externe qui va être expulsée et qui formera cet objet cher aux astronomes amateurs, une nébuleuse planétaire, avant de se mélanger et de disparaître. Alors ça, c'est les étoiles, on va dire, peu massives, les plus nombreuses, comme le Soleil, qui vivent donc très longtemps et finalement meurent assez paisiblement. Mais les étoiles les plus massives, qui sont rares mais très intéressantes, ont un destin plus tourmenté. En fait, comme elles sont très massives, eh bien cette fois, à chaque fois qu'un cycle de fusion s'éteint, faute de carburant, eh bien on peut contracter encore plus grâce à l'énorme masse qui confine tout ça, jusqu'à atteindre une température suffisante. Dans les dernières phases, c'est de l'ordre de quelques milliards de degrés pour déclencher un cycle de fusion suivant. Et donc, on va passer par tous les cycles de fusion possibles, après avoir produit de l'hélium, du carbone, de l'oxygène, du néon, du magnésium, etc., du silicium. Le silicium se transforme en fer, et le fer, c'est l'élément le plus stable de la classification périodique des éléments. On ne peut plus faire de fusion avec du fer. Ça coûterait de l'énergie, ça n'en produirait plus. Et donc, le cœur de l'étoile massive, à ce stade de son évolution, qui a été beaucoup plus rapide que pour une étoile comme le Soleil, ça va maintenant se compter en millions d'années, ou en dizaines de millions d'années, plutôt qu'en milliards d'années, eh bien, le cœur de l'étoile massive, c'est quelque chose qui finalement ressemble à une naine blanche, mais composée de fer, et puis avec cette énorme enveloppe autour. Et la différence avec une naine blanche, c'est qu'elle est très massive, et donc au-delà de la masse maximum où l'équilibre peut être atteint, qu'on appelle la masse de Chandrasekhar. Et donc ce cœur de fer s'effondre sur lui-même, très très rapidement, en moins une fraction de seconde, 100 millisecondes, il se contracte au point d'atteindre un système énormément plus dense, puisque cette fois, sa masse n'est plus concentrée dans la taille de la Lune, ce qui était déjà remarquable, mais dans la taille du Grand Paris, 10 km, alors qu'on a un objet qui fait typiquement une masse, cette fois, de 1,5 fois la masse du Soleil. La densité est de l'ordre du milliard de tonnes au centimètre cube. C'est le milieu le plus dense qu'on connaisse dans l'univers. Et cette contraction, cette densité extrême, s'accompagne d'une transformation radicale de la matière. En fait, d'une part, il y a ce qu'on appelle une neutronisation, les protons se changent en neutrons, et d'autre part, bien sûr, les noyaux ne survivent pas, on n'a plus que des neutrons. Donc à la fin, on a une étoile à neutrons. Ça dure 100 millisecondes, et puis le reste de l'étoile s'aperçoit qu'il s'est passé quelque chose, commence à s'effondrer à son tour, rencontre l'étoile à neutrons, qui est quelque part le mur le plus dur que vous pouvez rencontrer dans l'univers, rebondit, et l'étoile explose, et c'est ce qui fait une supernova. Et vous avez ici une image d'un reste de supernova, donc la nébuleuse du crabe, ici observée avec le James Webb. Et en fait, quelque part, c'est une supernova qui a été observée sur Terre en 1054. C'est une supernova qui a lieu dans notre galaxie et qui a été très très brillante. À l'époque, à l'œil nu, on pouvait la voir en plein jour pendant une vingtaine de jours et ensuite on l'a observée pendant plus de 2 ans. Et en fait, quelque part, ce que nous disent ces observations, c'est que l'explosion n'est pas encore terminée. C'est-à-dire que là, l'objet, il fait déjà à peu près 10 parsecs, mais la matière est encore en expansion à une vitesse supérieure à 1000 km par seconde. C'est des explosions extrêmement énergétiques. Alors, quand on regarde dans le domaine visible, ou ici plutôt infrarouge, on voit ça, on voit essentiellement l'onde de choc qui se propage suite à l'explosion dans le milieu interstellaire. Mais si on regarde en rayons X, ce qui me permet de vous montrer une première illustration de la puissance de l'astronomie multilongueur d'onde, eh bien c'est ce que nous dit la lumière bleue. On voit en fait une source brillante au centre, non résolue, qui est l'étoile à neutrons. Et en fait, cette étoile à neutrons, dans le cas de la nébuleuse du crabe, elle tourne très rapidement sur elle-même, elle fait à peu près 30 tours par seconde. Il faut imaginer, hein, c'est un objet, c'est une fois et demie la masse du Soleil, la taille de Paris et 30 tours par seconde. En fait, c'est donc ce qu'on appelle un pulsar, et ça émet des ondes radio, mais aussi ça émet un vent de particules qu'on voit très bien ici parce qu'il vient ensuite se cogner contre la nébuleuse externe. Ça accélère des particules, ça fait du rayonnement énergétique. Et donc, vous voyez, il y a toute cette nébuleuse bleutée autour, ce qu'on appelle la nébuleuse du vent de pulsar. Ça, on va dire, c'est le destin normal d'une étoile massive. C'est ce qui arrive pour la majorité des étoiles massives. Mais donc, ce dont je vais vous parler ce soir, c'est ce qui arrive très rarement à quelques étoiles massives. Et savoir quelles sont les conditions précises qui font que ça se produit, ça fait partie des choses qu'on comprend encore assez mal. Alors, ces phénomènes beaucoup plus extrêmes que les supernovas classiques, c'est ce qu'on appelle les sursauts gamma. Et donc, comme leur nom l'indique, c'est des phénomènes transitoires qu'on observe non plus en lumière visible, mais dans le domaine gamma, donc la lumière où les photons sont les plus énergétiques, encore au-delà des rayons X, les rayons X étant ceux qu'on utilise pour les radiographies médicales. Et en fait, donc, il faut aller dans l'espace, hein, l'atmosphère arrête les rayons gamma, et donc typiquement, c'est une astronomie qui n'a commencé que dans les années 60, et les sursauts gamma ont été détectés dès les années 60, et en fait, pas par des satellites astronomiques, mais par des satellites militaires américains qui, en fait, cherchaient à détecter des essais atomiques. Bon, il y a aussi un flash de lumière gamma, donc même type de détecteur. C'est des satellites de classe Vela. Alors, à quoi ressemble un sursaut gamma? Eh bien, sur cette animation, vous avez à gauche la carte du ciel dans le domaine gamma, en coordonnées galactiques, donc l'équateur correspond à la Voie lactée, et la direction du centre correspond à la direction du centre galactique. Et bien sûr, le ciel gamma est très différent du ciel que vous admirez tous les soirs dès que vous avez la chance de sortir de Paris, parce qu'on ne voit pas d'étoiles. Les étoiles ont beau être très chaudes, elles ne sont pas suffisamment chaudes pour produire du rayonnement gamma. Donc essentiellement, ce qu'on voit, c'est une émission diffuse dans la Voie lactée, vous voyez cette bande sur l'équateur, qui est due en fait à l'interaction du rayonnement cosmique avec le milieu interstellaire. Quelques sources ponctuelles qui sont principalement, vous en voyez une ici qui est Vela, qui sont principalement des restes de supernovas qui font partie de la classe générale qu'on appelle des accélérateurs cosmiques. C'est des endroits dans l'univers où on arrive à accélérer des particules à haute énergie et à produire du rayonnement énergétique. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'au-delà de ces sources permanentes, vous avez tout à coup, et très en dehors de la galaxie, une source qui apparaît et qui, pendant quelques secondes, est beaucoup plus brillante que tout le reste de l'univers, au point même que pour ce détecteur-là, vous voyez, ça sature au maximum. Ça dure 10 secondes, vous avez l'enregistrement du signal au cours du temps à droite. C'est très variable, très brillant, et c'est ça un sursaut gamma. Alors depuis la découverte, ça a été étudié par beaucoup de satellites cette fois d'astrophysique, et on sait aujourd'hui qu'un sursaut gamma, il y a en fait deux phases d'émission. Il y a la phase que je viens de vous décrire, qui est le sursaut gamma proprement dit, qu'on appelle souvent l'émission prompte, qui est de courte durée, pour les plus longs, quelques centaines de secondes, pour les plus courts, quelques millisecondes, très variable. Et une fois que ça, c'est terminé, on observe une lumière plus faible à toutes les longueurs d'onde, des rayons X jusqu'aux ondes radio, qui est quand même relativement brillante au départ, mais qui décroît très très vite et qui s'éteint, et on appelle ça la rémanence. Dans les deux cas, quand on analyse le spectre de la lumière, c'est-à-dire la façon dont les photons répartissent leur énergie, eh bien, on constate que ce rayonnement ne peut pas être produit par des corps uniquement à haute température. Pour ceux qui voient de quoi je parle, ce n'est pas un rayonnement de corps noir. En fait, c'est typiquement du rayonnement de particules accélérées. Et donc, on a ici un accélérateur cosmique qui est particulièrement extrême. Alors, l'intérêt de ces observations de rémanence, qui sont plus récentes, puisqu'on a commencé à les faire à la fin des années 90, donc 30 ans après la découverte des sursauts gamma, c'est qu'on localise très très mal en astronomie gamma, c'est-à-dire pour ça qu'il a fallu 30 ans pour trouver la contrepartie aux autres longueurs d'onde. On localise déjà nettement mieux en rayons X et on localise très bien dans le domaine visible. Et donc, une fois qu'on a la rémanence dans le domaine visible, eh bien, on peut observer d'autres choses, et en particulier, on peut découvrir, c'est ce qui a été fait dès 1997, que ces phénomènes n'ont pas lieu dans notre galaxie, mais dans des galaxies très lointaines. On a affaire à des phénomènes extragalactiques. Donc, vous avez ici la découverte historique. Donc, en haut, c'est la rémanence d'un sursaut gamma qui a eu lieu le 28 février 1997. Et donc, vous voyez, sur la première image, il y a une source qui est marquée OT pour Optical Transient, qui est apparue ce jour-là simultanément sur sursaut gamma et qui n'était pas sur les images d'archives. C'est ça, la rémanence. Et puis ensuite, elle décroît. Et vous voyez que le 8 mars, eh bien, elle est déjà beaucoup plus faible. Et en fait, au bout d'un moment, elle s'éteint. Et une fois qu'elle s'éteint, si on a un télescope suffisamment sensible, ici, c'est le Hubble Space Telescope, en regardant à cet endroit-là, qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve une galaxie lointaine. Alors, il faut être un peu spécialiste, savoir si c'est une galaxie. Le spectre de la lumière nous renseigne aussi beaucoup. C'est sûr, c'est très différent d'une galaxie proche comme celle-là, mais c'est une galaxie. Et donc, là, on a la preuve directe qu'on a affaire à un phénomène extrêmement lointain. Alors, on peut aller au-delà, c'est-à-dire qu'on peut justement analyser le spectre de la lumière pour faire une mesure plus précise de la distance. Et en fait, quand on regarde soit le spectre de la rémanence elle-même, dans lequel on trouve des raies d'absorption, soit en bas le spectre de la galaxie, une fois qu'on l'a identifié, dans lequel on trouve des raies d'émission, eh bien on s'aperçoit que par rapport aux longueurs d'onde qu'on mesurait au laboratoire, toutes ces raies sont décalées vers le rouge d'un facteur 1 plus z assez élevé. Et ça, on sait depuis Hubble et Lemaître que c'est la signature de sources très lointaines dans un univers en expansion. Donc là, on a vraiment la preuve directe d'une distance extragalactique très élevée. Et en l'occurrence, pour ce sursaut pour lequel ça a été fait pour la première fois, eh bien, en gros, la lumière a été émise quand l'univers n'avait à peu près que la moitié de son âge actuel. Il a fallu la moitié de l'âge de l'univers pour que la lumière voyage jusqu'à nous. Donc on a vraiment affaire à un objet très très lointain. Alors automatiquement, il y a une conséquence très grave. C'est qu'on avait affaire à un phénomène très brillant et on sait maintenant qu'il est très lointain. Ça veut donc dire qu'intrinsèquement, la quantité d'énergie est colossale. Alors, je vous l'ai mis en joules, mais bon, ça fait surtout un 1 avec beaucoup de zéros derrière, hein, donc entre 43 et 48 zéros après. Et ça, c'est sous forme de photons gamma. Alors, on peut comparer à d'autres choses. Si on prend, par exemple, la lumière rayonnée par le Soleil en une seconde, vous voyez que c'est rien du tout. Là, on émet des ordres de grandeur au-dessus de ça. Si on regarde la galaxie pendant une seconde, on n'est rien du tout. Je vous rappelle que la seconde, c'est quand même l'ordre de grandeur de la durée du sursaut gamma. Donc un sursaut gamma, pendant qu'il est brillant, il est beaucoup plus brillant qu'une galaxie. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus brillant que 100 milliards d'étoiles. Si on regarde une supernova, je vous ai parlé de supernova, d'explosion d'étoiles massives, c'est beaucoup plus que la lumière rayonnée dans une supernova. C'est même, dans pas mal de cas, plus que l'énergie cinétique de l'explosion. Mais en fait, on sait aujourd'hui que dans les supernovas, l'essentiel de l'énergie n'est pas visible. Le phénomène explosif très spectaculaire qu'on voit, ce n'est que le sommet de l'iceberg. L'essentiel de l'énergie libérée dans une supernova est libérée sous forme de neutrinos, des particules qui ne sont pas de la lumière, très difficiles à détecter. On les a détectées pour une supernova en 1987. Et là, on commence à entrer dans les mêmes eaux. Donc, voilà. Sauf que nous, c'est que des photons gamma. Et puis, les seuls phénomènes qu'on connaisse qui soient plus brillants que ça, c'est les fusions de trous noirs qu'on observe maintenant avec les détecteurs d'ondes gravitationnelles LIGO et Virgo. Et là, quand deux trous noirs stellaires fusionnent, on peut libérer des énergies encore plus élevées. Simplement, c'est infiniment plus compliqué à détecter. Donc, on est vraiment dans la classe des objets les plus extrêmes. Alors, j'ai un peu fait ce paysage des observations pour un peu vous décrire ce que sont les sursauts gamma. J'ai un peu, au départ, montré les observations historiques, mais depuis cette époque-là, des années 90, où on a compris que c'était des phénomènes extragalactiques, découvert les rémanences, on a fait beaucoup de progrès, et je vais juste vous montrer brièvement quelques observations plus récentes pour vous montrer qu'il y a souvent des surprises avec le sursaut gamma. Alors, par exemple, en 2022, on a détecté le sursaut gamma le plus brillant jamais détecté. Donc on le surnomme le BOAT, le Brightest of All Times. Et en fait, lui, il est encore 10 fois plus lumineux que tous ceux qu'on avait détectés avant. Et intrinsèquement, ce n'est pas juste qu'il était proche. Il se trouve qu'en plus, il était assez proche par rapport aux autres sursauts gamma. Donc la combinaison des deux fait que quand le signal gamma est arrivé sur Terre, il était vraiment très très intense, au point de faire une perturbation électromagnétique dans l'atmosphère qui a perturbé beaucoup de satellites. Donc il y a plein de satellites qui ne sont pas du tout normalement destinés à détecter les sursauts gamma, qui ont détecté ce sursaut gamma. Il a été détecté par des dizaines d'instruments. C'est vraiment un cas très exceptionnel. Et en fait, ce qui est très intéressant du point de vue de la physique de l'émission, c'est qu'il y a une observation assez rare qui a été faite à cette occasion. Donc, vous voyez sur l'image qui est là, en bleu, vous avez la courbe de lumière du sursaut gamma, donc l'historique du flux de photons mesuré dans le domaine gamma habituel. Et c'est un sursaut assez long, hein, il dure plus de 500 secondes. Mais à l'endroit où il y a la flèche, on a vu monter avec un autre instrument beaucoup plus récent qui s'appelle LASSO, qui est une expérience chinoise, un flux à beaucoup plus haute énergie, avec des photons détectés jusqu'à 13 téraélectronvolts. Alors, en gros, 13 téraélectronvolts, pour vous donner l'ordre de grandeur, ça veut dire que chaque photon là véhicule à lui tout seul ce que véhiculerait 10 000 milliards de photons de lumière visible. C'est des photons extrêmement énergétiques. Et donc là, automatiquement, ça nous dit que dans ce cas-là, en termes d'accélérateur cosmique, on est encore plus extrême que ce qu'on croyait. Et donc, bien sûr, c'est très intéressant à étudier. Et pour l'instant, ben, on peut dire que ce n'est pas si clair de vraiment bien comprendre comment, même pour un sursaut gamma aussi extrême que celui-là, comment on peut atteindre des énergies aussi élevées. Alors, je ne vais peut-être pas commenter trop longuement, mais on n'a que quelques cas où on détecte des photons aussi énergétiques dans les sursauts gamma. C'est des cas particulièrement étudiés. Et ce n'est pas facile à faire parce que là encore, c'est des instruments très, très spéciaux pour pouvoir faire de l'astronomie gamma à ces énergies-là. En fait, les photons sont tellement énergétiques qu'il faudrait des instruments gigantesques pour les détecter. Et en fait, on utilise l'atmosphère. C'est l'atmosphère le détecteur. Et donc, en fait, le photon, quand il arrive dans l'atmosphère, il interagit avec, par exemple, un atome d'azote dans la haute atmosphère. Ça crée une cascade de particules secondaires. Et ces particules secondaires vont très, très vite. Elles vont plus vite que la lumière dans l'atmosphère. Donc, ça produit une sorte d'onde de choc lumineuse, l'équivalent du bang de l'avion qui franchit le mur du son. Donc là, c'est le mur de la lumière. Et ce qu'on appelle la lumière Tcherenkov. Et c'est cette lumière Tcherenkov qu'on détecte au sol. Et si on fait bien les choses, à partir des caractéristiques de cette lumière, on peut remonter aux caractéristiques du photon gamma initial. Donc là, par exemple, vous avez une des expériences actuellement en fonctionnement, qui est l'expérience S, qui est principalement allemande et française. Et puis, il y a un grand projet qui s'appelle CTA, qui va révolutionner ce domaine dans les années à venir. Alors voilà, c'était un peu pour vous montrer les observations des sursauts gamma. Et maintenant, quel est finalement l'état de l'art en matière de compréhension physique de ces phénomènes? Parce que bien sûr, l'astronomie, c'est déjà observer ce qu'on voit dans le ciel, mais on essaye de comprendre, et en particulier, c'est ça qui est merveilleux avec l'astrophysique, c'est qu'avec les lois de la physique déterminées à notre époque sur Terre, on semble avoir une excellente capacité à comprendre ce qui se passe dans l'univers à toutes les époques. Alors, comment les astrophysiciens décrivent la physique de ces phénomènes? Eh bien, essentiellement, les sursauts gamma sont associés à des explosions d'étoiles très particulières pour lesquelles il y a de la matière éjectée à une vitesse proche de la vitesse de la lumière sous forme d'un jet. Alors, c'est ce qu'un artiste a essayé de reproduire ici. Alors, bon, certaines choses sont assez bien vues, d'autres le sont moins. Est-ce que ça va se déclencher? Voilà. Donc, au départ, on part avec une étoile massive, très bleue. Alors, ce qui ne va pas très bien dans l'animation, c'est qu'on ne la voit pas trop s'effondrer. Donc là, en ce moment, il y a dans le cœur, l'effondrement est en train d'avoir lieu. Et en fait, dans certaines conditions, si on est suffisamment massif, ce n'est pas une étoile neutron qu'on forme, c'est un trou noir. Et un trou noir sur lequel tombe de la matière est capable de produire un jet. Le jet, s'il est suffisamment énergétique, réussit à percer l'étoile, ça l'artiste l'a bien montré. Et l'idée, c'est que ce jet est très variable, parce que voilà, c'est un événement cataclysmique qui l'a produit, et il y a donc de la dissipation dans le jet qui accélère des particules et qui produit le sursaut gamma proprement dit. Puis ensuite, le jet rencontre le milieu extérieur, et il est freiné par ce milieu extérieur, et ça produit une onde de choc, un peu comme un reste de supernova, mais en version beaucoup plus énergétique, beaucoup plus relativiste, qui accélère des particules et qui produit la rémanence, le rayonnement observé par la rémanence. Et ce que vous avez peut-être vu à la fin, c'est que l'artiste savait qu'une propriété des jets relativistes, c'est que du fait de leur mouvement relativiste, donc ça veut dire une vitesse très proche de la vitesse de lumière, eh bien, contrairement aux objets à notre échelle qui ont des mouvements très lents et qui peuvent émettre de la lumière dans toutes les directions, quand on est en mouvement relativiste, on focalise sa lumière vers l'avant. Et donc ce qu'a montré l'artiste à la fin, c'est que si on est bien orienté et qu'on est pile dans l'axe du jet, eh bien, on bénéficie à plein de cette focalisation du rayonnement vers l'avant, et c'est ça qui contribue à faire du sursaut gamma un phénomène particulièrement brillant. Voilà. En revanche, si on est sur le côté, on le voit beaucoup plus difficilement. Alors, pourquoi ça redémarre ? Voilà. Donc là, vous avez ici un schéma qui reproduit un peu ce qu'on vient de voir. Essentiellement, donc, une source centrale qui est par exemple un trou noir accrétant qui produit un jet relativiste. En fait, dans cette phase initiale, le milieu est tellement dense qu'il est opaque à son propre rayonnement. Ça, c'est une grande difficulté pour des astrophysiciens. Ça veut dire qu'on n'a aucune chance de recevoir de la lumière de cette phase initiale. Le seul moyen de sonder cette phase initiale, c'est l'astrophysique multimessager, c'est les neutrinos ou les ondes gravitationnelles. On n'en est qu'au premier pas. Pour la lumière, il faut attendre que le jet se soit suffisamment propagé pour, en se diluant, devenir plus transparent. Et au-delà d'une limite qui est marquée en vert ici, qu'on appelle la photosphère, eh bien, il devient transparent à son propre rayonnement. Et là, on peut commencer à voir ce qu'on voit. Et donc, essentiellement, les deux phases. Une phase de dissipation dans le jet lui-même, ça peut être des ondes de choc, ça peut être de la reconnexion magnétique, ça dépend un peu des propriétés du jet, qui accélère des particules, qui produit le rayonnement gamma. Et puis ensuite, le jet est freiné par son environnement, et donc il y a cette onde de choc en rouge, là, très violente, qui est sur le schéma, et qui est elle aussi un site d'accélération de particules, et qui produit la rémanence. Au début, le choc est très violent, donc ça accélère bien, on a des rayons X, et puis plus ça freine, plus ça va devenir du rayonnement moins énergétique, et à la fin, on n'a que des ondes radio. Alors, on pourrait dire comment un astrophysicien déduit ça des pauvres observations que je vous ai montrées, où essentiellement on a des spectres et des courbes de lumière. Ben, là, c'est la partie qui est la plus difficile à transmettre dans ce genre de conférence, parce qu'il faudrait commencer à écrire quelques équations. Mais en revanche, ce que je peux dire, c'est que bien que le scénario puisse vous paraître exotique, en fait, les ingrédients invoqués ne sont pas si exotiques que ça pour des astrophysiciens et se retrouvent à d'autres échelles, dans des systèmes où on peut les observer plus facilement que dans les sursauts gamma, où c'est particulièrement difficile du fait de la distance. Donc en particulier, les trous noirs, c'est quelque chose qu'on observe à toutes les échelles, et en particulier, il y a des trous noirs beaucoup plus massifs que ceux dont je vous parle, des trous noirs dits supermassifs dans les cœurs de galaxies, pour lesquels on a des observations beaucoup plus directes sur l'existence de ces trous noirs, et vous avez tous sûrement rêvé devant cette image obtenue par l'Event Horizon Telescope, du trou noir supermassif au centre de la galaxie elliptique M87, avec un effet d'anneau qui est un effet attendu pour, dû à la déflexion des rayons lumineux autour du trou noir, avec cette silhouette qui se dégage. Donc là, entre guillemets, on voit le trou noir, si je puis dire. Autre ingrédient qui peut paraître exotique, un jet de matière à ces échelles-là qui irait à la vitesse de la lumière. Eh bien, là aussi, à l'échelle des trous noirs supermassifs, où on voit mieux les détails du fait de la taille, on voit des jets relativistes, toujours dans cette même galaxie. Si on regarde maintenant en radio dans la région du centre galactique, eh bien, on voit très très bien un jet qui s'échappe de la région centrale où il y a le trou noir accrétant, celui où il y a l'image de l'Event Horizon Telescope. Et en fait, on peut immédiatement, quand on a un peu l'habitude, voir que ce jet est relativiste, parce qu'en fait, vous voyez très bien qu'on ne voit qu'un jet, que d'un côté. Mais normalement, il devrait y avoir deux jets, parce que sinon, recul du canon, si vous éjectez que dans une direction, la ressource centrale devrait partir à grande vitesse dans l'autre direction, ce qui n'est pas du tout le cas. Donc si on n'en voit qu'un alors qu'il y en a deux, ça veut dire qu'ils sont relativistes, qu'on voit celui qui vient vers nous et qui focalise le rayonnement vers nous, et qu'on ne voit pas celui qui va dans l'autre direction, parce qu'il focalise son rayonnement dans l'autre direction. Une fois que ça freine par le milieu extérieur, autre étape dont je vous ai parlé dans le scénario pour les sursauts gamma, une fois que ça a freiné, ce n'est plus relativiste, ça peut émettre de la lumière dans toutes les directions, et vous voyez très bien qu'on voit les zones de freinage des deux côtés. Donc il y avait bien un jet aussi ici. Voilà. Donc les jets relativistes, ça existe vraiment. Alors en ce qui concerne la source centrale, comment on peut former ce trou noir accrétant qui va générer ce jet qui va être à l'origine de tout le rayonnement observé? Eh bien, on a plusieurs idées et il y a vraisemblablement plusieurs classes de phénomènes qui mettent en œuvre, qui permettent de produire ces jets et qui ensuite mettent en œuvre la même physique. Alors en particulier, quand on étudie l'histogramme des durées des sursauts gamma, donc ici c'est le nombre de sursauts gamma en fonction de leur durée, on voit très très bien deux groupes et qui ont des propriétés légèrement différentes qui laissent entendre que c'est une physique très similaire avec deux classes de phénomènes un peu différents. Alors, les deux grandes idées qu'on a, et elles sont assez bien, supportées en bon français, les observations, c'est qu'une de ces classes, le groupe le plus fréquent, qui est les sursauts entre guillemets les plus longs, typiquement quelques dizaines de secondes, est dû à ce dont je vous ai déjà parlé, l'effondrement d'une étoile massive qui a quelques propriétés particulières qui fait que par rapport à la supernova standard, cette fois, on va avoir formation des trous noirs et éjection relativiste, et que l'autre classe, la plus rare, mais également très intéressante à cause du lien avec les ondes gravitationnelles, est sans doute liée à la coalescence de deux étoiles à neutrons. Quand vous avez deux étoiles à neutrons dans un système binaire, eh bien, elles émettent des ondes gravitationnelles, elles se rapprochent très lentement l'une de l'autre, et à la fin, elles se rencontrent, et au moment où ça se rencontre, la région centrale s'effondre en trous noirs. Voilà. Alors, il y a plein de façons de prouver ces scénarios. Je ne vais pas tout vous montrer, mais je vais vous montrer quelques exemples parce que c'est vraiment très illustratif de la démarche en astrophysique. Pour les sursauts longs, je vais vous juste montrer deux exemples d'observations qui montrent que c'est le scénario étoile massive. C'est que, premièrement, quand on trouve la galaxie hôte d'un sursaut long, eh bien, c'est toujours une galaxie qui est en train de former des étoiles. Et si une galaxie est en train de former des étoiles à chaque fois qu'on voit un sursaut gamma long, ça veut dire que le délai entre la formation d'étoiles et le sursaut gamma est très court. Sinon, de temps en temps, on verrait des sursauts gamma longs dans des galaxies où la formation d'étoiles est déjà terminée. Or, les seules étoiles qui peuvent donner un délai court, c'est les étoiles massives. Les étoiles peu massives vivent des milliards d'années et la formation d'étoiles a largement le temps de s'éteindre. Donc ça, c'est un indice très fort du lien avec les étoiles massives. Et puis en plus, dans quelques sursauts gamma proches, on a carrément trouvé une supernova associée, et là c'est presque une preuve directe qu'on est bien en train d'assister à une explosion d'étoiles massives. Donc le scénario sursaut long étoile massive, il est très bien établi. Pour les sursauts courts et le lien avec les coalescences, eh bien cette fois, si on observe les galaxies hôtes, on s'aperçoit qu'il y a une grande diversité de types de galaxies. On trouve des galaxies à formation d'étoiles, des spirales par exemple, comme pour les sursauts longs, mais on trouve aussi des galaxies qui ne forment plus du tout d'étoiles, comme dans ce cas extrême où ici on a une grosse galaxie elliptique. Ça veut donc dire que cette fois, on a perdu la corrélation avec la formation d'étoiles, et donc, quelque part, l'interprétation, c'est de dire que cette fois, le délai entre la formation d'étoiles et le sursaut gamma doit être beaucoup plus long. Et ça marche très très bien avec le scénario coalescence. Parce que, certes, pour former un système binaire d'étoiles à neutrons, ça prend peu de temps. C'est deux étoiles massives qui finissent par exploser, donc la durée de vie d'étoiles massives, c'est court, et ensuite, on a deux étoiles à neutrons. Donc là, la difficulté n'est pas là. La difficulté, c'est surtout que le système survive aux deux explosions. La plupart du temps, après, on n'a plus un système binaire. Mais admettons que c'est survécu. On a maintenant deux étoiles à neutrons. Ce qui va prendre énormément de temps, c'est pour que les deux étoiles à neutrons se rapprochent par émission d'ondes gravitationnelles. Et en fait, ce temps dépend très fortement de la séparation initiale. Si la séparation initiale est suffisamment petite, ça peut prendre un temps assez court et on peut observer la coalescence dans une galaxie qui forme encore des étoiles. Si la séparation est suffisamment grande, ça peut prendre des milliards d'années et là, on perd complètement la corrélation avec la formation d'étoiles. Donc ça, c'est un indice indirect, mais qui est quand même assez fort. Et puis après, bien sûr, la preuve directe, c'est que justement, ce qui fait que les deux étoiles finissent par se rejoindre, c'est l'émission d'ondes gravitationnelles. Et donc, si on peut détecter des ondes gravitationnelles associées à un sursaut gamma court, là, on a la preuve directe. Alors malheureusement, on a réussi à ne le faire qu'une fois, mais c'est déjà super, parce que c'est une preuve directe. Donc vous avez sûrement déjà vu cette animation, j'avais besoin de ton micro, Guillaume, mais on ne s'en lasse pas, avec en bas le signal d'onde gravitationnelle détecté par LIGO. Donc ce qu'on voit, c'est les toutes dernières orbites des deux étoiles à neutrons avant leur fusion. Donc plus elles se rapprochent, plus elles tournent vite, ça c'est la loi de Kepler, et plus le signal est intense. Donc vous allez entendre un signal qui évolue d'un signal assez faible à basse fréquence à un signal assez élevé à haute fréquence. Donc pour s'amuser, on l'a converti en onde sonore, donc vous allez l'entendre ce signal. Et puis vous allez voir juste après, c'est la courbe du haut, le satellite Fermi détecte le sursaut gamma associé, qui est un sursaut court qui dure moins de 2 secondes. Pardon, il faut que je recommence. Oui, non, c'est bon. Coalescence, sursaut gamma. Ça paraît, voilà, mais c'est le résultat d'efforts instrumentaux absolument hallucinants pour avoir un jour réussi à faire cette double détection. Voilà. Donc on n'a malheureusement qu'un événement. Il y a beaucoup de gens, y compris à l'IAP, qui font d'énormes efforts pour un jour être capable d'en avoir d'autres. Ça viendra, il faut être patient. Parfois, il faut être patient. C'est des événements très difficiles à détecter, très rares. Ça viendra. Et on n'a qu'un événement, mais cet événement nous a apporté beaucoup d'informations. Alors, par exemple, il y a le sursaut gamma, il y a les ondes gravitationnelles, il n'y a a priori pas de supernova, puisque ce n'est pas une étoile massive qui a explosé, c'est vraiment... Voilà. Mais en fait, on s'attendait à quelque chose qui ressemble un peu à une supernova, en beaucoup plus faible, et qui a été observé, qu'on appelle une kilonova. Alors, je ne sais pas si vous avez le temps de voir, sinon je vais le remettre. Mais vous allez à gauche l'image de la galaxie O, dans laquelle vous allez voir la kilonova qui est assez brillante et bleue au départ et qui devient rouge. Et à droite, vous avez son spectre, pour ceux à qui ça parle, et vous allez voir se déplacer vers le rouge et l'infrarouge, ce qui est le signe d'un refroidissement. C'est un spectre de corps noir avec des raies qui le déforment beaucoup. Voilà. Vous voyez la source là qui est rouge, puis qui bleuit, et puis à la fin, voilà, on la voit beaucoup moins. Alors ça, c'est la kilonova, et ça, c'est très intéressant. Ce n'est pas le jet relativiste, c'est de la matière qui est directement éjectée au moment de la fusion. Et c'est assez intéressant, c'était une prédiction avant de l'avoir observée. C'est de la matière très riche en neutrons, dans lequel des réactions nucléaires très particulières peuvent avoir lieu. Et on pense que c'est un des rares sites astrophysiques où la synthèse d'éléments lourds, les éléments les plus lourds, est possible, comme par exemple l'or. Et donc moi, quand je regarde cette alliance, j'aime imaginer que cette alliance est fabriquée avec de l'or qui a été forgé dans une coalescence d'étoiles à neutrons quelques milliards d'années avant la formation du système solaire et qu'un sursaut gamma était associé à cette formation. Voilà. Voilà, alors c'est un événement unique, mais pour lequel on a un jeu de données hallucinant, et encore aujourd'hui, on travaille sur ces données-là. Je peux faire remarquer que, outre le sursaut gamma, on a sa rémanence, comme pour les autres sursauts gamma, mais que cette rémanence est très très différente. Vous voyez que par rapport aux rémanences que je vous ai montrées qui ne faisaient que décroître, là en fait, ça a commencé par monter pendant plus de 100 jours, et après ça s'est mis à décroître. La grosse différence avec les autres sursauts gamma, c'est que celui-là, comme c'était les ondes gravitationnelles, l'événement déclencheur initial, eh bien, il a été observé beaucoup plus proche que d'habitude, mais de côté. Et c'est uniquement parce qu'il est proche qu'on le détecte quand même. Et donc, l'effet relativiste joue de manière très différente. Ce qui se passe, c'est qu'au départ, quand le jet est encore très relativiste, eh bien, le jet principal focalise sa lumière dans une direction où nous ne sommes pas, et donc on ne le voit pas, on ne voit que ce qu'il y a un peu autour, qui est moins énergétique et qui vient vers nous, donc on a un truc pas très brillant. Puis plus ça freine, moins cette focalisation relativiste est efficace, et donc plus on commence à explorer une région plus grande, jusqu'à maximum le moment où on voit la totalité, y compris le jet central. Et après on retrouve la décroissance habituelle due au freinage. Voilà. Alors ça me permet de vous montrer le genre de travaux théoriques qu'on peut faire à l'IAP. On peut modéliser ce genre de choses, et là vous avez donc un modèle qui a été conçu par mon ancien doctorant Clément Péloin, pour lequel vous voyez un excellent ajustement de la courbe de lumière de cette rémanence par le modèle que je viens de vous décrire. Bravo Clément. Alors, juste pour vous dire que quand même les choses sont toujours plus compliquées qu'on ne le pense, récemment il y a eu des observations qui remettent quand même, qui montrent que cette classification est quand même légèrement plus compliquée que cette belle image que je viens de vous décrire, long effondrement d'étoiles massives, court coalescence, parce que récemment on a trouvé quelques exemples, ici c'est le plus beau cas, de sursauts longs avec une kilonova, donc quelque chose qui normalement est associé à une coalescence. Donc ça veut dire qu'il faut creuser un peu plus et que c'est peut-être un petit peu plus subtil que ça. Voilà. Ça veut dire aussi, et ça c'est un enseignement pour la suite, que pour vraiment bien caractériser un sursaut gamma, on ne peut pas se contenter de le sursaut lui-même et de sa rémanence, il faut aller jusqu'à la caractérisation de la galaxie hôte. C'est un ingrédient supplémentaire indispensable si on veut vraiment comprendre les choses. Alors en l'occurrence, c'est un joli cas parce que pour la confirmation de la kilonova, vous avez vu, c'est une observation JWST et le spectre mesuré par le JWST est très similaire au spectre de la kilonova observé en 2017. Donc il y a vraiment très peu de doute dans ce cas-là. Il y a d'autres cas qui sont un peu... Donc pour résumer à ce stade, là on est un peu à la moitié, j'ai un tout petit peu de retard, mais à peine, eh bien finalement, les sursauts gamma, c'est quand même des phénomènes extrêmes qui sont passionnants à étudier en tant que tels parce qu'on peut tester de la physique dans des régimes qu'on trouve nulle part ailleurs. Et donc essayer de comprendre ça et le lien avec les étoiles, etc., c'est vraiment apprendre beaucoup de choses du point de vue de l'astrophysique. Et bien qu'il y ait ce scénario qui commence à être bien compris, il y a des tonnes de questions ouvertes, j'en ai laissé quelques-unes ici. Et puis les sursauts gamma, c'est aussi des sources très brillantes pour lesquelles on se dit que si on est intelligent, on doit pouvoir les exploiter non pas simplement pour les comprendre eux, mais aussi pour étudier l'univers lointain et donc très jeune où ils se produisent. L'idée, cette fois, c'est de les utiliser comme phares qui éclaireraient brièvement une région très lointaine de l'univers, faire de la cosmologie avec les sursauts gamma. En particulier, la lumière qui nous vient d'un sursaut gamma, elle a traversé beaucoup de matière pendant ces milliards d'années où elle a voyagé jusqu'à nous, et il y a une trace de ça. Alors, pour aller plus loin, eh bien, on est face à un défi instrumental et observationnel. En fait, si on veut progresser, aller au-delà de ce qu'on a déjà compris, il va falloir réussir à construire un échantillon de sursaut gamma qui soit à la fois très bien caractérisé pour la compréhension physique du phénomène. Donc, comme je vous l'ai dit, si on veut vraiment comprendre, il faut avoir tout. L'émission du sursaut, la rémanence, la galaxie haute, la mesure de distance avec le redshift. Et ça a l'air comme ça, mais c'est plein d'instruments différents, c'est très difficile à faire. Et en plus, il faut le faire très vite pour que, très rapidement, on puisse observer cette lumière avec un grand télescope. C'est le seul moyen d'exploiter aussi le potentiel pour la cosmologie. Donc, c'est très, très dur à faire. Alors, je vous ai déjà montré que le nouveau logo de l'IAP était un bon outil pour comprendre ces défis de l'astronomie du ciel transitoire. Donc, je continue sur cette idée. Donc, voilà, ça, je vous l'ai déjà expliqué. Vous avez fait l'expérience tout à l'heure. Si on ne veut pas rater l'événement et, en fait, être là trop tard, eh bien, il faut surveiller en permanence et réagir vite. Voilà. Là, vous êtes bien. Ah, ben non, là, maintenant, c'est trop tard. Voilà. Il faut aller très vite pour aussi pointer un grand télescope, parce que c'est uniquement avec un grand télescope qu'on a la sensibilité pour voir des détails qu'on ne voyait pas avant. Alors, je précise que c'est un détail que j'ai rajouté. Hein. Le vrai logo de l'IAP n'a pas ce détail-là. Il faut des instruments. Si on veut faire de la cosmologie, il faut des instruments qui aient ces propriétés-là, en plus, dans l'infrarouge, parce que les sursauts les plus lointains, leur lumière est très décalée vers le rouge. Et ça, c'est très difficile, parce que ça devient très faible, et c'est dans l'infrarouge, où il faut être sensible. De ce point de vue-là, actuellement, l'arrivée du JWST offre des possibilités très nouvelles et très intéressantes. Et puis, si vous avez bien suivi ce que j'ai dit, il faut faire ça avec des instruments très différents, parce qu'en fait, il faut le faire de manière multilongueur d'onde, et même, on l'espère, dans l'avenir, de matière multimessager. Et c'est en croisant toutes ces longueurs d'onde ou ces messagers qu'on a des informations complémentaires qui fait qu'à la fin, on peut espérer avoir une description physique cohérente et complète du phénomène qu'on étudie. Je précise que ces détails supplémentaires sont aussi d'une création personnelle et qui ne sont pas dans le vrai logo officiel de l'IAP. Alors, jusqu'à 2023, les deux satellites principaux qu'observaient les sursauts gamma avaient chacun un point fort et un point faible. Vous avez d'une part le satellite Fermi, qui est excellent pour détecter le sursaut gamma proprement dit et caractériser son émission, mais qui ne détecte pas la rémanence, qui localise mal, donc on n'a pas la rémanence dans la majorité des cas, on n'a pas la galaxie haute, on n'a pas la distance. Et puis à côté, vous avez le satellite Swift, qui lui est assez efficace pour mesurer la rémanence, même au point, dans 30% des cas, d'aller suffisamment vite pour avoir la mesure de distance, le redshift, mais qui par contre caractérise très très mal le sursaut gamma. Et donc, je vais maintenant vous parler du projet SVOM, qui est un peu un successeur et qui cherche à trouver le meilleur compromis entre ces deux tendances. Donc voilà une vue d'artiste du satellite SVOM. Alors SVOM, c'est plein de défis, et entre autres, un des défis, c'est que c'est une collaboration franco-chinoise, et il n'y en a pas eu beaucoup jusqu'à présent en astrophysique, donc il a fallu apprendre à travailler ensemble, mais vous allez voir que ça marche assez bien, et donc il y a plein de laboratoires impliqués, dont l'IAP, voilà. Alors, comme je suis SVOM depuis sa préhistoire, au début des années 2000, j'ai eu la chance d'être là au moment du lancement, donc le 22 juin 2024, à la base de Xichang, dans le Sichuan. Et donc, on était à 2 km là, du pas de tir. Et quand on a travaillé pendant 20 ans sur ce qu'il y a tout en haut de cette énorme bombe, eh ben, c'est une expérience intéressante, on va dire. Voilà. Et on peut dire qu'on est très, très content une fois que ça a marché. Donc, le lancement s'est bien passé. Alors SVOM, par rapport aux missions précédentes, en particulier SWIFT, fait un premier changement qui est un pari audacieux, qui est un pointage antisolaire. Alors attendez, je vais peut-être essayer parce que je pense que c'est peut-être mieux. Est-ce que j'en arrive à le voir ? Est-ce que vous voyez ? Voilà, caméra, ouais. Donc vous voyez, vous avez ici un superbe modèle Lego de SVOM. Et donc, comme tout satellite, vous voyez... Comme tout satellite, vous voyez que... Vous avez des panneaux solaires pour avoir de l'énergie. Donc, vous voyez les panneaux solaires. Ici, vous avez un écran de protection pour protéger les instruments du rayonnement solaire, pour pas qu'ils chauffent. Et puis, donc, l'idée, c'est qu'en permanence, le soleil est dans la direction des panneaux solaires et les instruments regardent dans l'autre direction. On regarde toujours dans la direction opposée au soleil. Donc là, maintenant, vous voyez les instruments et le soleil est dans le dos. Là, vous voyez les panneaux solaires, donc le soleil de l'autre côté, vous voyez plus d'instruments. Alors, quel est l'intérêt de faire ça ? Ça peut paraître étonnant. Alors, est-ce que j'arrive à revenir là ? Oui. Non. Ah, ça, c'est embêtant. Est-ce que si je fais ça, je pensais avoir une super astuce avec mon truc ? Oui, ça va. Ouais. Quel est l'inconvénient ? Il y a un énorme inconvénient à ce pointage antisolaire, c'est qu'une fois par orbite, et en l'occurrence, VOM est en orbite basse, donc une orbite, c'est 90 minutes, une fois par orbite, vous avez la Terre dans le champ de vue qui vous masque le ciel. Donc vous détectez moins de sursaut gamma que si vous regardiez ailleurs. Ça, c'est l'inconvénient. Mais ça a un énorme avantage. C'est que pour les sursauts gamma qui vous restent, ceux que vous détectez, eh bien, ils sont immédiatement observables par des télescopes au sol parce qu'il fait nuit. Donc c'est ça le pari qu'on fait. Moins de sursauts gamma, mais des sursauts gamma mieux caractérisés et plus vite. Bon, une autre chose qui est plus classique, c'est qu'on évite dans le pointage le plan galactique vu qu'on s'intéresse à des phénomènes extragalactiques. Voilà. Alors, une fois qu'on est là, donc, on surveille le ciel. Alors, au début, on ne sait pas où va avoir lieu un sursaut gamma. Donc, alors, je continue, je m'obstine. Vous avez toujours mon modèle, voilà. Et donc, pour surveiller le ciel, on a deux instruments grand champ. Vous avez cet instrument-là, qui est un télescope à masque codé qu'on appelle éclair. Et puis, ces trois détecteurs que vous voyez ici, je vais mettre dans ce sens-là, vous les verrez mieux. Voilà. 1, 2, 3, qui sont trois détecteurs qui constituent un instrument qu'on appelle le GRM. Alors, ces instruments, c'est des instruments qui surveillent vraiment une grande partie du ciel et qui sont faits pour détecter le sursaut gamma proprement dit. Alors, la combinaison des deux fait qu'on va très bien caractériser le sursaut gamma proprement dit parce qu'on a une très bonne couverture spectrale. L'unité du kilo électronvolt, le keV, ne doit pas trop vous parler, mais en gros, à 4 keV, on est plutôt encore dans les rayons X, alors qu'à 5 MeV, on est très franchement dans les rayons gamma. Et donc, on couvre comme ça plusieurs ordres de grandeur en énergie. On va très bien caractériser l'émission gamma. Et en particulier, jusqu'à présent, on n'était jamais descendu aussi bas que 4 keV. Donc, on peut même espérer trouver des choses qui n'avaient pas été vues avant. Alors, vous avez en plus le fait qu'un des deux instruments, l'instrument éclair, peut localiser. Et donc, on peut non seulement détecter le sursaut gamma, le caractériser, mais aussi le localiser, ce qui est important si on veut chercher ensuite sa rémanence. Alors, vous avez ici une image réelle de ces instruments. Donc l'instrument éclair et les trois détecteurs du GRM. Et donc qu'est-ce que c'est qu'un masque codé, un télescope à masque codé? Eh bien en fait, le détecteur proprement dit, hein, pour détecter des rayons gamma, c'est essentiellement des cristaux avec une électronique adaptée. Donc c'est des cristaux ici de cadmium, zinc, tellure et de l'électronique. Et donc ça va vous compter les photons qui traversent, ça va mesurer leur énergie, mais ça ne va pas dire d'où ils viennent. Donc on a ce qu'on appelle le plan détecteur avec cette matrice de cristaux, c'est comme des pixels. Pas un CCD, mais enfin, la structure géométrique est la même. Ensuite, sur les côtés, vous avez du blindage qui arrête les photons gamma. Et sur le dessus, au lieu de le laisser ouvert comme dans un télescope standard pour regarder le ciel, eh bien, on met ce masque que vous voyez ici, qui est constitué de régions opaques aux photons gamma et de régions transparentes. Ce qui veut dire que ce que va mesurer le plan détecteur, en fait, c'est l'ombre du masque éclairé par le ciel. Alors, vous savez très bien que quand vous circulez, si vous regardez l'ombre des objets, vous pouvez immédiatement déduire où est le soleil sans regarder le soleil, ce qui n'est jamais recommandé. Il suffit de regarder la position de l'ombre. Donc ici, c'est la même chose. Avec la position de l'ombre, on va pouvoir revenir à la direction initiale de la source. C'est très facile s'il n'y a qu'une seule source dans le ciel. S'il y a plusieurs sources dans le ciel, c'est un peu plus compliqué. C'est tout l'art des télescopes à masque codé. C'est de construire ce motif de masque un peu bizarre qui fait que quand il y a plusieurs sources, l'opération mathématique qui, à partir de l'image de l'ombre, remonte à l'image vraie du ciel, est non ambiguë et a une solution unique. Mais ça marche très bien. C'est quelque chose qu'on sait bien faire. Et vous avez ici une image dans un cas où le sursaut gamma est au centre de l'image. Vous voyez qu'on a une source brillante, bien détectée. Ça ne ressemble pas du tout à des images dans le domaine visible, mais c'est une vraie image. Et c'est comme ça qu'on peut localiser typiquement dans quelques minutes d'arc. Alors cette opération, elle est faite à bord de SVOM, par l'ordinateur à bord, qui va donc détecter le sursaut gamma, le localiser, et nous informer au sol grâce à un réseau de stations VHF tout le long de l'orbite qui permet d'avoir un contact permanent avec le satellite. Alors il y a quelques trous, hein, parce qu'on ne peut pas mettre une bouée avec une antenne VHF au milieu du Pacifique, mais sinon globalement, on couvre très très bien la totalité de l'orbite, et c'est très efficace. Typiquement, le délai médian est inférieur à 10 secondes. En moins de 10 secondes, on a l'information qu'il s'est passé quelque chose à bord. Alors bien sûr, on n'a pas une information complète, parce que le débit de ces ondes VHF est assez mauvais, donc on a fait la sélection du plus important, et en particulier le plus important, c'est « j'ai détecté un sursaut gamma, voilà sa position voilà. ». Alors on a développé un certain nombre d'outils d'analyse pour analyser ces premières données partielles, et en particulier à l'IAP avec un laboratoire à Montpellier qui est le LUPM, on a développé les pipelines d'analyse de signal gamma proprement dit, Donc, comme je vous avais déjà montré une image éclair, donc ici, tous les exemples, c'est le même sursaut. Vous allez voir toute la séquence d'observation. C'est un sursaut qui a été observé le 5 février 2025, comme son nom l'indique. Et donc, vous voyez ici, vous avez le résultat de l'analyse automatique des données du GRM qui ont été analysées. Donc, vous voyez que la chaîne d'analyse a identifié avec la courbe en jaune le modèle du bruit de fond et que vous avez en bleu du signal qui ressort au moment du sursaut gamma, c'est le sursaut gamma. Voilà. Vous voyez que le bruit de fond est très variable, il se met tout d'un coup à augmenter, et ça, je vais vous expliquer pourquoi dans l'image suivante. En effet, l'ordinateur de bord ne se contente pas de détecter le sursaut gamma, le localiser et transmettre les informations au sol. Une fois qu'il a localisé, il va déclencher le repointage du satellite. Donc, j'ai mon satellite. Voilà, je viens de détecter avec cet instrument-là un sursaut gamma et le localiser, et je vois qu'il est dans cette direction, et donc le satellite se repointe et amène de nouveaux instruments à petit champ dans la bonne direction. Et pourquoi ? Bien évidemment, pour détecter maintenant la rémanence. Alors, vous avez ici une image du champ de vue dans la séquence pour ce sursaut-là. Donc, l'espèce de carré au milieu, c'est le champ de vue d'éclair. Les trois ronds autour, c'est les trois détecteurs GRD. Vous voyez la position de l'étoile blanche au départ, c'est la position du sursaut gamma au début de la séquence. Et puis, à la fin de la séquence, quand le satellite a fini de se repointer, tout est au centre du champ de vue. Voilà. Là, ce type d'image, c'est exactement les images auxquelles les scientifiques de veille ont accès pour vérifier que la séquence se déroule convenablement. Et donc, les deux autres instruments qui deviennent disponibles, c'est un télescope dans le domaine des rayons X et un télescope dans le domaine visible, dont vous avez ici une vraie photographie. Voilà. Alors, par rapport à ce qui existait avant, le télescope X est plutôt un peu moins sensible, par exemple, comparé à celui de Swift. En revanche, le télescope visible est beaucoup plus sensible. Donc, tant que Swift existe encore, il y a une très bonne complémentarité entre les deux missions. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, donc, typiquement, dans le cas de cet exemple, le satellite, après s'être pointé, s'est stabilisé un peu plus de 2 minutes après le début de la séquence, 132 secondes. Il a fallu à peu près 300 secondes pour accumuler suffisamment de signal pour avoir les premières images dans le visible, et encore une centaine de secondes supplémentaires pour avoir les premières images en rayons X. Alors, bien sûr, ces images complètes, on ne peut pas les transmettre avec le réseau VHF, le débit n'est pas assez fort, donc on a des informations partielles, mais qui permettent d'avoir la succession de détermination de la source la plus brillante du champ en rayons X avec sa localisation de plus en plus précise, et donc en quelques minutes, on a donc une localisation qui est maintenant inférieure à la minute d'arc, ou de l'ordre de la minute d'arc. Et puis ici, c'est bien sûr pas une image définitive, c'est une image très dégradée, mais qui permet néanmoins de déjà identifier la rémanence au centre, par comparaison avec des catalogues, et cette fois d'avoir une localisation à mieux que la seconde d'arc. Alors par ailleurs, dans ce cas-là, en fait, le télescope visible, pour prendre un exemple, mais ça serait pareil en rayons X, a pu suivre la rémanence une fois qu'il l'avait détectée pendant des heures, et vous voyez qu'on a bien retrouvé cette fameuse décroissance à laquelle on s'attend. Et on a même quelques cas, comme on a un télescope très visible, où pour la première fois, avant c'était très rare, on a suivi cette décroissance, non plus sur quelques heures, mais sur plus d'une semaine. Voilà. Alors, ces informations continuent d'arriver au sol. Et qu'est-ce qu'on en fait ? Eh bien, l'idée, c'est de commencer à regarder. Alors, vous entendez peut-être un petit bruit, ça veut dire qu'il y a sans doute un sursaut gamma qui vient d'être... Voilà. Parce que, bien sûr, on reçoit les alertes pour savoir qu'il faut aller... Mais ce n'est pas moi qui suis de veille ce soir, donc je vais laisser mes collègues travailler. Et donc, on a nos propres télescopes de suivi au sol, qui sont des télescopes robotisés qui réagissent automatiquement à ces alertes qu'on reçoit via le réseau VHF. Alors, on a des petites caméras qui sont plus pour essayer de détecter vraiment la rémanence au tout début, mais on a surtout ces deux télescopes-là qui sont un peu plus grands, qui vont chercher à détecter la rémanence même éventuellement dans les heures qui suivent. Et il y en a un en Chine et un qui est au Mexique, un télescope franco-chinois, et qui a l'avantage d'avoir un bras proche infrarouge, donc très intéressant pour les sursauts les plus lointains, ceux qui sont le plus décalés vers le rouge. Donc ça, c'est, on va dire, ça reste privé, c'est SVOM. Mais par ailleurs, toute cette séquence d'alerte que je viens de vous décrire, eh bien, au fur et à mesure, on diffuse publiquement les informations qu'on est en train de détecter un sursaut gamma, et beaucoup d'autres instruments dans le monde intéressés par l'étude des sursauts gamma vont se déclencher pour les observer. Donc on a, alors il y a plein de niveaux de partenariat, depuis des partenaires très étroits jusqu'à des équipes quasi concurrentes, mais il y a toute une communauté avec des instruments très divers, à différentes longueurs d'onde, qui va participer à cette séquence d'observation. Et nous, du point de vue de nos sursauts gamma, on a intérêt à donner des informations utiles pour favoriser ce suivi, parce que c'est comme ça qu'on va réussir à construire notre échantillon bien caractérisé. Au passage, ça vous montre que, comme toujours, la science est très collaborative. Hein, voilà. Alors là, ça y est, tout le monde est en train de se connecter. C'est à chaque fois qu'il y a un nouveau message. Voilà. Je vais peut-être recouper le son. Voilà, je l'avais remis tout à l'heure, mais je vais l'enlever. Voilà. Alors, au passage, vous comprenez. Donc, dans cet exemple, par exemple, là, je vous montre justement la première détection avec le télescope franco-chinois, 6 heures après l'alerte. Mais on a maintenant un certain nombre de cas où on a réagi dans la minute qui suivait et on a détecté au sol dans la minute qui suivait. Vous voyez qu'au passage, c'est quand même faire de l'astronomie transitoire, il faut être motivé. Hein, parce que ça veut dire que 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, on a une dizaine de personnes qui sont prêtes, dès qu'il y a le petit son que vous allez entendre, à aller sur leur ordinateur, vérifier que cette séquence se produit bien, que les analyses automatiques ont marché, et si elles n'ont pas bien marché, les relancer manuellement en changeant certains paramètres, pour ensuite envoyer ces fameux messages à la communauté qui vont favoriser le suivi par d'autres instruments, et qui sont de deux sortes. Des messages qu'on appelle des notices qui sont très formatés, que lisent des ordinateurs, ça c'est pour les télescopes robotiques, et puis des messages rédigés que lisent des êtres humains, c'est pour des instruments plus grands, et on appelle ça des circulaires. Alors moi, toute la première partie de ma carrière, les sursauts gamma, je les ai modélisés. Mais étant dans ZOM, maintenant je participe à cet effort que je viens de décrire, et donc je suis très très fier, après plus de 20 ans de carrière, d'avoir écrit ma première circulaire pour annoncer la détection d'un sursaut gamma, un jour où j'étais en veille, le 19 février de cette année. Voilà, vous voyez, c'est cette phrase-là dont je suis très fier, « The burst advocate on shift force this burst is Frédéric Deigne ». Voilà. Alors ici, vous avez justement la séquence de toutes les circulaires qui ont été émises dans la communauté, par nous ou par d'autres, suite à cette détection. Alors vous voyez, donc il y a la circulaire initiale, celle que ZWOM a envoyée, et puis après il y en a presque une vingtaine. Certaines, c'est encore ZWOM qui complète les informations avec ses autres instruments, et d'autres, c'est d'autres instruments qui donnent. Et parmi toutes ces informations, ça va jusqu'à la détection de la galaxie haute et la mesure de la distance via le redshift avec un grand télescope, le GTC aux Canaries, qui est un télescope de plus de 10 mètres de diamètre. Et ici, c'est un sursaut qui est déjà assez lointain, 3,55. C'est beaucoup plus loin que beaucoup de galaxies observées communément. Ce n'est pas les galaxies les plus loin, mais on est déjà dans des objets assez lointains. Alors, pour conclure, là, je vous ai un peu décrit comment fonctionnait ZWOM et toute cette séquence très ambitieuse qu'on a mis en place pour essayer d'avoir cet échantillon bien caractérisé qui permettra de progresser. Alors, quel résultat ? Ben, c'est très préliminaire, je vais vous montrer quelques exemples. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc on a lancé en juin 2024. On a commencé pendant plusieurs mois à tester, calibrer, etc. Les vraies opérations scientifiques normales, elles n'ont commencé qu'en avril de cette année. Donc on n'a que quelques mois d'opérations normales. Mais on a déjà des résultats assez intéressants. En particulier, donc, on détecte beaucoup de sursauts, mais les plus intéressants, c'est ceux qui sont détectés par les deux instruments avec éclair, parce que c'est ceux où on les localise bien et où donc on peut espérer les caractériser complètement. Et là, on en a déjà 53. Et pour l'instant, on a un petit peu moins de la moitié d'entre eux pour lesquels on a pu aller jusqu'au bout et tout caractériser, ce qui est déjà une efficacité meilleure que celle de Swift. Mais on est encore en amélioration, donc ça devrait encore progresser. On espère atteindre les deux tiers. Alors, quelques exemples, c'est une sélection de sursauts gamma particulièrement intéressants de ces premiers mois, qui va vous montrer qu'on commence à construire un échantillon intéressant. Alors, par exemple, je vous ai parlé de la connexion entre les sursauts courts et les coalescences d'étoiles à neutrons. Alors, malheureusement, on n'a pas encore un événement associé à des ondes gravitationnelles. Ça, comme je vous dis, il va falloir être patient. Mais on a quand même un premier événement assez intéressant. On sait que dans certains cas, avec des résultats précédents, le sursaut court est suivi d'une émission beaucoup plus faible, qui est très difficile à détecter en rayon gamma, et qu'on soupçonne faible aussi parce qu'elle est un peu plus basse énergie. Avec notre télescope éclair qui va plus bas en énergie, eh bien, on a un premier cas où on l'a très bien détecté, et on la voit très bien. Donc dans ce sursaut-là, vous avez le sursaut court proprement dit, qui dure, alors il est un peu plus long, il fait 3 secondes, mais c'est parce qu'on va plus bas en énergie. Et puis, vous avez en jaune, un intervalle en jaune, pendant une cinquantaine de secondes, on continue à détecter du signal beaucoup plus faible. Et pour la première fois, avec éclair, on peut vraiment bien le caractériser, on peut mesurer le spectre, etc. Et par ailleurs, comme on a fait toute la séquence avec localisation, on a aussi la rémanence, la galaxie haute, la distance, et les propriétés de la galaxie haute nous disent bien que c'est des propriétés de sursaut court, c'est pas une galaxie à formation d'étoiles, c'est le scénario coalescence qui est privilégié. Et donc là, ça veut dire qu'en étudiant cette émission supplémentaire beaucoup plus faible, eh bien on a accès à une meilleure compréhension de la physique qui suit la coalescence, et en particulier des différents éjectats. C'est peut-être un éjectat un peu différent. Voilà. Il y a plein de choses à étudier. Alors, c'est un travail en cours, mais c'est une nouvelle fenêtre sur la physique de ces coalescences. Un autre exemple, cette fois, c'est un sursaut long, assez classique. De nouveau, parfaitement correct, caractérisé, on a la rémanence, la galaxie haute, la distance. Là, il est un peu plus loin, 1, le redshift, c'est 1,9. S'il y en a que ça intéresse, 1,9, j'avais dû noter, voilà, l'âge de l'univers n'était que de 3,5 milliards d'années. Donc, c'est un univers déjà assez jeune. Ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est que le sursaut est assez long, il dure presque plus de 500 secondes, et donc le repointage a eu lieu avant la fin du sursaut. Ce qui fait qu'on a les observations en visible et en rayons X avant la fin du sursaut. Et donc, c'est un cas très rare où on observe en gamma, en X et en visible la transition entre la fin de l'émission prompte, alors en visible, c'est un peu dur, mais on la voit beaucoup mieux en X, et ensuite la montée de la rémanence. Et donc, la transition entre cette phase de dissipation dans le jet et ensuite cette phase de freinage. Et donc, ça, c'est très intéressant. Ça apporte des contraintes au modèle en matière, justement, de rayons caractéristiques de ces différentes phases, etc. Bon, je ne vais pas dans les détails, c'est un peu un catalogue d'exemples. Là, le sursaut suivant, cette fois, c'est donc les deux premiers, il y en avait un, on a eu beaucoup de chance, là, sur sursaut court, c'était au mois d'août, donc juste après le lancement. Le sursaut long que je viens de vous montrer, c'était, si ma mémoire est bonne, en décembre de 2024. Et là, maintenant, celui-là, c'est un sursaut qui a été observé en octobre. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que c'est un sursaut gamma qui a toutes les caractéristiques d'un sursaut long normal. Dans ce cas-là, même, non seulement on a le sursaut, sa rémanence, sa galaxie haute et son redshift, mais grâce à un suivi rapide avec le JWST, on a détecté la supernova associée. Je vous ai dit que les sursauts longs, on s'attend à ce qu'ils soient associés à une supernova. C'est-à-dire qu'outre le jet, le reste de l'étoile explose et fait la supernova. Mais le seul truc qui est bizarre, c'est qu'en fait, il n'émet pas vraiment de rayons gamma. C'est-à-dire que quand on regarde la courbe de lumière dans éclair, vous avez vu, vous avez la courbe de lumière dans trois couleurs. Bleu, c'est aux basses énergies, rouge, énergie intermédiaire, vert, aux énergies plus élevées. Et en fait, on ne voit le sursaut gamma que dans la courbe de lumière bleue. Donc, c'est un sursaut gamma qui a toutes les caractéristiques d'un sursaut gamma long standard, sauf qu'il n'y a pas vraiment les rayons gamma. Parce qu'en dessous de 20 kV, c'est encore plutôt des rayons X. Alors, ça, c'est très intéressant parce qu'on savait déjà qu'il y avait de temps en temps ce genre de phénomène. Mais grâce à éclair, on a la capacité d'avoir la caractérisation complète et donc d'essayer de comprendre leur connexion sur ce gamma classique, quelle est la différence, quels sont les points communs, etc. Et ça, on ne peut le faire que si, par exemple, on a aussi la galaxie haute, la supernova, etc. Donc là aussi, l'étude est en cours, mais là, c'est un nouvel événement très intéressant. Et puis pour finir, car il ne nous reste que quelques minutes, je vous finis avec, là, je vous ai plutôt montré trois cas où la caractérisation qu'apporte SWOM va apporter des progrès dans la compréhension physique du phénomène. Et sur le dernier exemple, je vais vous montrer le potentiel des sursauts gamma pour étudier l'univers lointain. Nous avons un premier sursaut à grand redshift, un sursaut à Z égale 7,3. Je vais vous dire dans un instant ce que ça veut dire en termes de distance et d'âge de l'univers. Alors bien sûr, c'est un sursaut très faible, hein, donc la courbe de lumière n'est pas très spectaculaire. Là, vous avez le sursaut gamma proprement dit dans éclair et dans GRM. Vous voyez, en fait, on ne voit pas grand-chose. Hein. On ne voit que le pulse principal. Le reste est sous le bruit de fond. Mais par contre, on a pu le localiser. Il y a eu le repointage. On ne l'a détecté ni en X à bord, ni dans le visible. Alors, notre télescope X, il n'est pas très, très sensible. Donc, c'est peut-être que la rémanence était trop faible pour lui. Mais notre télescope visible, il est super sensible. Donc, le fait qu'on ne le détecte pas, ça veut dire que sans doute la lumière est très très rouge au-delà de la sensibilité de notre instrument. Et ça, il n'y a que deux possibilités pour avoir la lumière très rouge. Soit c'est un sursaut proche, mais dans un environnement très très poussiéreux, ce qui peut arriver dans certaines régions de formation d'étoiles, et la poussière rougit la lumière. Soit c'est un événement à très très grande distance, et dans ce cas-là, c'est le décalage vers le rouge cosmologique. Donc, on avait une cible potentielle à grande distance. Et donc ensuite, c'est un autre télescope au sol, le NOT, qui lui a un bras infrarouge, qui a détecté la rémanence. Et grâce à ça, on a pu, de l'ordre de la dizaine d'heures après, déclencher une observation au VLT, faire un spectre, Et voilà le spectre. Et vous voyez qu'en fait, il n'y a quasiment pas de flux dans la partie bleue du spectre, que le flux n'est que dans la partie rouge. Et il y a une coupure très très nette, qui est une coupure bien connue, qu'on appelle le break, la coupure Lyman, qui est liée au fait que c'est l'hydrogène qui domine sur la ligne de visée. Et cette coupure Lyman, au laboratoire, elle serait à 1215 angström, 121 nanomètres, mais ici, elle est à 10 000 angström, ça veut dire qu'elle est très décalée vers le rouge, elle est décalée d'un facteur 8,3, 1 plus z, donc z égale 7,3. On a donc ici un sursaut à très grand redshift. Alors ici, on n'est pas encore dans une phase hyper optimale en termes de temps de réaction. Donc l'objet était déjà assez faible et le spectre est bien, mais il n'est pas d'une qualité extraordinaire. Si on arrive à optimiser, on arrivera un jour à faire ça, non pas en 10-15 heures, mais en 2-3 heures, et on aura un signal, un spectre beaucoup plus intense qui contiendra une information sur le milieu traversé. Là, on n'a pas cette information, mais on a quand même, vous allez voir, une information très utile. Donc en fait, on sait qu'il est à z égale 7,3. Alors si on convertit ça, ça veut dire que quand le sursaut a été émis, l'univers n'était âgé que de 730 millions d'années. L'âge de l'univers actuel, c'est 13 milliards d'années. Donc ça veut dire que, par exemple, si on y réfléchit, c'est-à-dire que ce sursaut gamma qu'on observe, il a eu lieu bien avant la formation du Soleil et du système solaire, je dirais même bien avant la formation de la Voie lactée telle qu'elle est actuellement. La Voie lactée n'en était qu'à ses progéniteurs à cette époque-là. Donc c'est quand même, là on commence à sonder une zone très très lointaine, et en particulier on sonde une zone très intéressante qu'on appelle l'époque de rayonisation, en fait une époque pour laquelle il y a eu une transition à grande échelle dans l'univers, à grande échelle dans les époques les plus reculées après l'émission du rayonnement fossile, en moyenne le gaz est neutre, et aujourd'hui dans l'univers actuel, quand on regarde des grands volumes, en moyenne l'univers il est ionisé. Et donc il y a eu une transition entre les deux. Pour que la transition ait lieu, il faut du flux ionisant, du flux ultraviolet, et une des meilleures sources de flux ultraviolet, c'est les étoiles, et en particulier les étoiles massives. Donc les étoiles massives ont très vraisemblablement joué un rôle crucial à cette époque-là, et là, qu'est-ce qu'on observe? On observe l'explosion de l'une de ces étoiles massives. On peut donc espérer apprendre des choses. Et en particulier, ce qui est très joli, c'est qu'il y a eu un suivi avec le JWST qui a sans doute permis de détecter la supernova associée à cette explosion, ce qui prouve donc qu'on est bien en train d'observer une explosion d'étoiles massives. Et ça en ferait, si c'est confirmé, la supernova la plus lointaine jamais détectée et de loin. Et donc, comment c'est fait? Ben, vous avez ici, alors pardon, excusez-moi, les images dans les 8 filtres de NIRCAM du JWST. Donc, vous voyez que de nouveau, alors c'est que de l'infrarouge, mais dans la partie la plus bleue, on ne détecte pas, hein, ce qui est à nouveau l'indice du très grand redshift, de la très grande distance. Et puis, c'est de plus en plus brillant quand on va dans le rouge. Et quand ensuite, on en déduit la distribution spectrale de ces points, eh bien, vous voyez qu'il y a vraiment un excès dans le rouge qui, si on le compare à ce qu'on attendrait du spectre typique de ce type de galaxies lointaines qu'on appelle des galaxies à Breck-Lyman, eh bien, est carrément en excès. Or, si on essaye d'ajuster cet excès par un spectre typique de supernova associé à un sursaut gamma, l'ordre de grandeur est exactement celui qu'on veut. Alors, c'est difficile. Pour être vraiment sûr, il faut que dans un an, on retourne observer. Et normalement, la supernova, elle sera beaucoup plus faible, elle sera éteinte, et on verra que le continu de la galaxie, et on pourra vraiment prouver que c'était un excès de ça. Mais c'est très, très prometteur, et donc on a peut-être vu en direct une explosion d'étoiles à l'époque de la rayonisation. Donc voilà, c'est sur ces premiers résultats prometteurs, un jour ce sera un échantillon, tout ça, mais là, c'est les tout premiers mois, et bien que je vais conclure. Donc j'espère vous avoir convaincu que l'étude des sursauts gamma est intéressante, que SVOM est un nouvel outil très puissant pour contribuer à cette étude, qui a quand même des défis difficiles pour l'étude des sursauts gamma. Je vous remercie pour votre attention, et si vous avez des questions, je serai ravi d'essayer d'y répondre.
Merci beaucoup Frédéric. On en parlait tout à l'heure, ça fait 2, 3, 4 conférences que tu fais depuis 20 ou 30 ans sur cette thématique. Et
ça continue à bouger. Ouais.
Et on voit que ça évolue beaucoup. Il y a beaucoup de nouveaux résultats, de nouvelles découvertes, de nouvelles compréhensions. Ouais. Ça fait plaisir. On peut le voir d'ailleurs, j'en profite pour citer, c'est Fred Manière qui a la réalisation ce soir et Jean Mouette à la prise de vue. Et c'est Jean qui a initié la prise de vue de ces conférences. Mmh. Et donc je pense que justement tes conférences, elles sont en ligne sur le site web de l'IAP, sur une chaîne YouTube, et donc on peut voir sur cette thématique tous ces progrès réalisés en 20 ou 30 ans. Et
malheureusement, on peut aussi constater que moi aussi j'ai évolué. Mais
on est tous là.
Voilà, c'est un sort commun.
Alors, j'ai quelques questions sur le chat, je vais en transcrire, vous pouvez en mettre d'autres. Est-ce qu'il y a une question déjà pour commencer dans la salle? Oui.
Bonjour, merci beaucoup pour cet exposé passionnant. Quelle est la probabilité qu'il s'en passe un dans notre galaxie, et mal dirigé, c'est-à-dire dirigé vers nous? Est-ce que ça peut être le bazar dans
l'électronique? Mal dirigé au sens pas s'il est bien observé, mais au contraire, il nous tue, quoi. Donc, il y a plusieurs aspects à votre question. Donc, la réponse brève, c'est extrêmement rare, c'est beaucoup, beaucoup plus rare que les supernovées. Les supernovées, c'est de l'ordre de une par siècle. Là, pointant vers nous, c'est sans doute plutôt un tous les millions, 10 millions ou 100 millions d'années. Et en plus, c'est sans doute un peu plus compliqué que ça, parce que maintenant qu'on commence à étudier bien les galaxies hautes des sursauts gamma, on s'aperçoit que plus les galaxies sont évoluées et donc sont enrichies en éléments plus élaborés que l'hydrogène du fait de l'activité des étoiles, moins l'efficacité des étoiles à faire des sursauts gamma est bonne. Donc sans doute que dans une galaxie comme la Voie lactée, le taux de sursaut gamma est moins important que dans une galaxie lointaine où les étoiles avaient une composition chimique plus simple. Cela dit, il y a des gens qui ont essayé de quand même regarder un peu ça. C'est très très difficile, par exemple, on pourrait s'amuser à essayer de regarder est-ce que dans les restes de supernovae qu'on voit dans notre galaxie, on en connaît un certain nombre, il y en a qui pourraient être des restes de sursaut gamma en fait. Ben, c'est très difficile à dire, c'est très très difficile. Au bout de 100 000 ans ou plus, il n'y a pas grand-chose qui différencie un reste de supernova d'un reste de sursaut gamma. Donc ça, ce n'est pas facile à faire. Il y a des gens aussi qui ont étudié l'impact sur Terre. Je ne suis pas du tout spécialiste de ça, mais il me semble que, en gros, il faut vraiment, même dans la galaxie, il faut que le sursaut gamma soit assez proche pour avoir vraiment un impact, disons, significatif. Alors, qui pourrait être très gênant, hein, par exemple, complètement détruire la couche d'ozone, enfin, un certain nombre de problèmes. Il y a des gens, mais je ne sais pas du tout ce que ça vaut, qui ont proposé que certaines grandes extinctions puissent être provoquées par ça, mais c'est très, très difficile à prouver. Je crois qu'il faut être dans une sphère qui est du l'ordre de ces quelques centaines de parsecs, donc c'est quand même notre environnement immédiat. C'est a priori, bon, disons, je pense que dans le monde actuel, il y a d'autres raisons de s'inquiéter plus urgente, voilà. Voilà. Mais donc, il y a peu de chances qu'on observe un sursaut gamma dans la Voie lactée de notre vivant. Ouais. Déjà, j'aimerais bien être toujours là quand il y aura la prochaine supernova. Ça suffirait à combler la fin de ma carrière.
Alors, dans la question sur le chat, il y a une question sur quelqu'un qui pose une question sur le fait que les satellites sont dans la thermosphère, qui peut être à une haute température. En gros, de manière plus générale, des satellites comme ça, SVOM et puis les autres dont tu as parlé, SWIFT, etc., sont-ils encore perturbés par la haute atmosphère de la Terre, ou est-ce qu'il n'y a aucun problème?
Non, là, c'est quand même suffisamment haut pour que le milieu soit très très peu dense. Ce qui nous perturbe beaucoup, en fait, du fait qu'on a des détecteurs de rayonnement à haute énergie, c'est plutôt ce qui se passe dans la magnétosphère de la Terre. Vous savez que la Terre est un aimant, et donc il y a des particules chargées qui sont piégées dans cet aimant et qui peuvent produire du rayonnement énergétique, qui peut, pour nos chaînes d'analyse, être confondu avec un sursaut gamma. Alors ça, de ce point de vue-là, un lancement en juin 2024 n'était pas idéal, parce qu'on est plutôt à un pic d'activité solaire, donc à un pic d'activité de ce type dans la magnétosphère. Donc on a testé nos instruments et nos chaînes d'analyse avec un bruit de fond particulièrement élevé et variable, et normalement, on ne va que vers le mieux, plus là, on est dans une phase descendante, donc on devrait... Mais voilà, donc en gros, nos modèles de bruit de fond, là où souvent on a besoin d'une réanalyse avec un être humain, c'est dès qu'il y a vraiment un truc très variable dû à des particules accélérées dans la magnétosphère, ça c'est très très dur à modéliser correctement. Donc ça, c'est plutôt ça qui nous perturbe, mais l'atmosphère elle-même, non.
D'accord, une autre question dans la salle? Oui.
Bonjour et merci. Même si la probabilité doit être infinitésimale, est-ce qu'il y a pu y avoir ou est-ce qu'il pourrait y avoir des collisions de photons
gamma? Alors, en fait, dans un sursaut gamma, alors on pourrait parler de collision de photons. Dans un sursaut gamma, il y a des interactions entre photons gamma. En fait, justement, c'est une des nombreuses choses que je n'ai pas eu le temps de développer, mais un des arguments indirects très très forts pour dire qu'on doit avoir un jet relativiste, c'est que si le rayonnement gamma qu'on observe était produit par une source statique, dans ce cas-là, on aurait sans doute des photons dans toutes les directions, voilà, et donc de temps en temps des photons qui interagissent de manière frontale. Et Les photons normaux, ça ne serait pas très grave, mais pour les photons gamma, s'ils sont suffisamment énergétiques, au moment de l'interaction, il y a une énergie suffisante pour pouvoir créer de la matière. Vous savez sans doute, c'est la formule la plus connue de la physique, E égale mc2, donc il y a une équivalence entre la masse et l'énergie. Et donc, si on a des photons suffisamment énergétiques, on peut créer de la matière avec. Et donc, quand deux photons gamma suffisamment énergétiques interagissent, ils peuvent produire une paire électron-positron, une paire de leptons. Et donc, les photons disparaissent. Et donc, si on est dans une source statique de ce type-là, on ne devrait pas observer un spectre gamma qui s'étend à haute énergie comme on le voit. On devrait voir une coupure au-dessus du seuil de production de paires, donc qui correspond à l'énergie de masse des électrons. Et ce n'est pas du tout ce qu'on observe. Donc, une façon de résoudre ce problème, c'est justement de dire le mouvement est relativiste. Si le mouvement est relativiste, les photons sont focalisés vers l'avant, ils ont des trajectoires quasi parallèles et ces fameuses interactions sont beaucoup plus rares. Il y en a quand même, mais qui produisent une coupure à beaucoup plus haute énergie que dans certains cas on arrive à observer. Et c'est très intéressant parce qu'on peut en déduire la vitesse du jet, ou plutôt son facteur de Lorentz. Donc c'est quelque chose qu'on a pas mal étudié dans notre groupe ici à l'IAP. Ouais. Donc c'est une excellente question.
Ouais. Merci. Une autre question sur le chat, sur les modes d'observation de Fermi et Swift. Tu as pas mal détaillé le mode d'observation de SWOM.
Oui.
Est-ce que tu peux dire juste quelques mots, pas en longueur, pour comparer sur ces deux
Swift, ça ressemble beaucoup à ce que je vous ai décrit, mais donc en particulier l'instrument principal qui détecte le source gamma, c'est aussi un télescope à masque codé, donc avec localisation à bord. Ensuite, ce qui change, c'est le pointage est très différent. Le télescope X qui rentre dans le champ une fois que Swift s'est repointé est plus sensible que le nôtre, donc il détecte la rémanence en rayons X dans presque 100% des cas. Et en revanche, il a aussi un petit télescope qui est dans le visible ultraviolet qui lui est très peu sensible et là qui détecte la rémanence dans très très peu de cas. Donc de ce point de vue là, ce que SWOM change, c'est qu'il a en plus le GRM qui fait que par rapport à Swift, on a aussi une très bonne caractérisation de l'ensemble de l'émission prompte. C'est la sensibilité du télescope visible qui permet de détecter la rémanence à bord dans une fraction des cas beaucoup plus grande. Et ça, c'est très intéressant parce que quand on détecte à bord, c'est éventuellement dans les minutes qui suivent. Et là, on a une localisation à la seconde d'arc qui permet immédiatement d'utiliser un grand télescope, même sans passer par la rémanence en rayons X. Donc ça, c'est vraiment un gros avantage. Et puis, c'est aussi toute l'optimisation qu'on a fait, parce que Swift a été lancé en 2004, si ma mémoire est bonne. Donc, nous, on a lancé 20 ans plus tard, et donc, on a bien sûr tenu compte de toute l'expérience de Swift pour optimiser tout ce qu'on pouvait faire pour que cette séquence marche mieux et soit plus efficace. Donc, il y a des points communs avec Swift. Fermi, c'est assez différent. Le Fermi, c'est deux détecteurs. Il y en a un à basse énergie qui ressemble beaucoup au GRM, cette fois, à bord de SWOM. C'est le même genre de technologie. Par contre, il y a un détecteur que nous, on n'a pas du tout. Il n'y a que Fermi qui l'a, qui permet de détecter, dans certains cas, l'émission dans le domaine du milliard d'électronvolts. Donc, c'est intermédiaire entre les photons gamma habituels et puis les photons gamma hyper énergétiques avec l'astronomie de Cherenkov dont je vous ai parlé. Et là, c'est un détecteur qui s'appelle le LAT, qui, lui, en fait, c'est un détecteur de physique des particules à ce stade-là. Ça ressemble au type de détecteur qu'on pourrait avoir au CERN ou dans ce genre d'endroit. C'est une technologie complètement différente. Les photons gamma rentrent dans le matériaux produisent des paires et on détecte ces paires dans des détecteurs. Enfin, c'est vraiment une technologie héritée de la physique des particules. Donc là, c'est très, très spécifique.
Ouais. Merci. On va prendre encore une ou deux questions avant de finir la soirée. Oui, une question là.
Merci. Bonsoir. C'est la première conférence astrophysique à laquelle je participe. Merci. Une première question qui est le jet relativiste. Oui. Est-ce qu'on sait de quelle manière est-ce qu'on peut l'anticiper, savoir dans quel angle il peut partir? Et puis la dernière question, c'est pour la partie SWOM. Pourquoi les Chinois ont négocié ce partenariat avec nous?
Je réponds d'abord à la deuxième question, qui d'une certaine façon est plus facile pour moi, parce que c'est justement, au départ, c'est une décision politique. C'est-à-dire que au départ, je ne sais pas si vous vous souvenez, il faut se remettre dans le contexte du début des années 2000, qui était assez différent du contexte actuel. C'était un contexte où l'Europe en général et la France en particulier cherchaient à développer un certain nombre de partenariats avec la Chine. Et donc, à cette époque-là, en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a eu une visite d'État de Jacques Chirac en Chine, qui était la première visite d'État depuis De Gaulle. Donc, comme toujours dans ce genre de cas, il y avait plein de contrats, d'accords signés. Et donc, il y a eu une décision d'avoir un certain nombre de partenariats dans le domaine du spatial. Et l'astrophysique, dans ces cas-là, c'est un très bon prétexte pour les politiques, parce que c'est un sujet consensuel qui est plutôt au bénéfice de l'humanité. On fait progresser les connaissances. C'est mieux que de, par exemple, décider de collaborer sur des satellites espions, par exemple. Et donc, il y a eu cette décision politique. Et ensuite, une fois que c'était fait, ça ne s'est pas du tout fait comme la sélection des satellites habituels. Les agences spatiales ont discuté entre elles et ont essayé de voir quels étaient les sujets d'intérêt commun qui permettraient de concrétiser cette volonté politique. Et les sursauts gamma sont apparus comme le sujet commun parce que des deux côtés, il y avait des projets. Alors, du point de vue des gens qui poursuivent ces projets, c'était une très bonne nouvelle parce que d'une part, au désespoir de beaucoup de nos collègues, on a donc court-circuité toutes les procédures de sélection habituelles pour avoir notre projet qui aboutit. Et puis d'autre part, le résultat était un satellite plus ambitieux que ce que chacune des deux agences avait prévu de faire au départ. Donc voilà. De manière générale, je dirais que la tradition en science en général et en astronomie en particulier est d'utiliser ce canal-là pour continuer à discuter et à échanger avec tout le monde, quel que soit le contexte géopolitique. Pendant la guerre froide, la France a eu des projets avec les États-Unis, mais aussi avec l'URSS. Et c'est ça qui est beau, je pense. La science est en avance sur l'humanité dans la capacité de maintenir le dialogue, même quand on a des régimes politiques aussi difficiles. Et je pense que ZOM est un bon exemple. On arrive vraiment à bien travailler avec nos collègues chinois, même si on vit dans des contextes très différents. Et alors, il y avait la première question, pardon, j'avais oublié, qui était la question que je voulais évacuer. On aimerait savoir, mais c'est une question très difficile. La capacité à prédire précisément les propriétés de ces jets, c'est très difficile. Donc, en fait, il y a deux approches. Il y a l'approche qui est une approche qu'on développe beaucoup à l'IAP, qui est plutôt, par la modélisation détaillée de l'émission observée, essayer de contraindre les propriétés du jet. Je vous ai donné un exemple avec cette modélisation de la rémanence du sursaut de 2017, qui a permis de comprendre sa géométrie. Et puis il y a une autre approche qui consiste plutôt à essayer de faire des simulations numériques lourdes en partant de la physique qu'on connaît, on fait s'effondrer un cœur d'étoile, etc. Et on regarde s'il y a un jet qui sort et quelles sont ses propriétés. Et après on croise les deux. Le problème c'est que déduire des contraintes des observations, ça a des limites, hein, c'est quand même difficile, et les observations sont partielles, sont délicates, hein, et les simulations, ça a aussi des limites, parce que c'est une physique tellement complexe que la plupart du temps, on ne peut pas, dans la même simulation, mettre tous les ingrédients physiques au niveau de réalisme qu'on voudrait. Donc on va faire différentes simulations qui vont se concentrer sur tel ou tel aspect, mais est-ce que la simulation rêvée qu'on ne sait pas faire, où il y aurait tout en même temps, donnerait exactement le même résultat? C'est pas si évident. Donc voilà, mais les deux progressent, puisque là, je vous ai illustré ce soir comment les observations progressent, mais le domaine de la simulation numérique dont j'ai très peu parlé est aussi un domaine qui progresse très vite. Donc on fait des progrès avec les deux approches.
Merci. Je te propose une dernière question hein, que je vais prendre sur le web. Désolé pour toutes les questions qu'on ne peut pas prendre, et je n'ai pas pris non plus toutes celles qui étaient sur le web. Mais on peut finir en se demandant, et quelqu'un demande ça, existe-t-il des projets pour de futures générations de télescopes? Et qu'est-ce qu'ils apporteraient? En gros, si on se projette, il y a évidemment plein de choses encore à faire avec ZOM, mais si on se projette dans l'avenir, qu'est-ce qui serait intéressant de faire sur les sursauts gamma?
Alors, dans le domaine, il y a plein de choses qui seraient intéressantes de faire. Donc, du point de vue sursaut gamma strict, beaucoup de gens pensent que si on veut encore franchir une étape très significative, ce qu'il faudrait réussir à faire, c'est qu'à bord du satellite, en plus des étapes que j'ai décrites, il y ait aussi la mesure du décalage vers le rouge, ce qui nécessiterait des instruments sensibles et qui aillent encore plus vers l'infrarouge, donc c'est compliqué, mais ça pourrait être une piste pour une mission spatiale encore plus ambitieuse. Voilà. Il y a par exemple un projet qui s'appelle Theseus, qui est actuellement soumis à l'ESA, mais qui n'est pas sélectionné, mais qui exploite ce genre d'idées. Donc c'est une des pistes possibles. Une autre piste qui est très explorée actuellement, c'est plutôt justement de chercher plutôt à... Ce qui est dur, c'est d'avoir tout en même temps, c'est de localiser. Donc pour la localisation, on pourrait au contraire avoir des constellations de plein de petits satellites, c'est très à la mode. Ça, c'est aussi porté par le fait qu'on se dit que comme ça plaît aux agences spatiales, on a des chances de passer. Et avec une constellation de satellites, chaque satellite ne localise pas, mais en comparant le signal sur tous les satellites, c'est fait de la triangulation et on peut localiser. Donc ça serait une approche low cost qui permettrait de détecter et localiser les sursauts gamma et de surveiller tout le ciel. Parce que même si ici avec ZOM on surveille une fraction du ciel importante, c'est loin d'être tout le ciel en permanence. Ça c'est pour les sursauts gamma. Puis après, bien sûr, je vous ai dit que Il y a le suivi multilongueur d'onde joue un rôle crucial. Là, on peut attendre des progrès. Alors, on est déjà dans une phase de progrès. Je vous ai montré plusieurs exemples comme quoi l'arrivée du JWST apporte des moyens incroyables. Mais on attend aussi CTA, donc le futur du télescope Tcherenkov, très sensible pour étendre beaucoup plus fréquemment les détections à très haute énergie. On a aussi des progrès attendus dans la sensibilité des instruments radio, avec à terme le SCA, qui permettra de détecter dans beaucoup plus de cas les rémanences. Éventuellement aussi, de temps en temps, pour les sursauts les plus proches, grâce à l'interférométrie radio, de détecter le déplacement apparent du jet du sursaut gamma. C'est possible pour les sursauts les plus proches, ça a été fait dans quelques cas. Et dans ce cas-là, ce déplacement apparent est en apparence plus rapide que la vitesse de la lumière. Et on sait que c'est un effet de projection qui n'est possible que si intrinsèquement on va à une vitesse très proche de la vitesse de la lumière. Donc c'est un moyen direct de montrer le mouvement relativiste, donc c'est très utile. Et puis, là où il y a encore une marge de progression énorme, mais ça va être sur, il va falloir du temps, c'est sur l'association multimessager. Donc là, je dirais que pour l'instant, la balle est quand même plutôt dans le camp des détections d'ondes gravitationnelles. Il faut que les interféromètres gravitationnels progressent en sensibilité, progressent aussi en ce qu'on appelle le duty cycle, c'est-à-dire la fraction du temps utile où on est vraiment en train d'observer et pas soit en train de régler l'instrument, soit en train de l'améliorer. Et ça, il y a plein de projets, des projets qui sont plutôt des améliorations des instruments en cours, et puis des projets qui sont des instruments de nouvelle génération. Il y a en particulier un projet européen qui s'appelle l'Einstein Telescope et un projet américain qui s'appelle le Cosmic Explorer. Si ces instruments ont lieu, existent un jour, ça va vraiment révolutionner ce domaine multimessager et le nombre d'associations. Je pense que ça sera peut-être plus pour mes collègues les plus jeunes qui sont dans la salle, mais peut-être que quand même j'aurai la chance de lire dans le journal les informations de ces premières. Ça coûte très très cher ces instruments et c'est extrêmement difficile à construire. Donc ça va mettre du temps, mais en théorie on sait faire. Donc il y a, du point de vue de la communauté scientifique, il y a une très forte mobilisation pour que ces projets existent un jour. Mais après, ça ne dépend pas que de nous. Voilà.
Merci, je vous propose d'arrêter là pour cette soirée. Donc merci à toutes et à tous de nous avoir rejoints.
Merci beaucoup.
Merci à ceux qui nous ont suivis sur YouTube. Je vous rappelle que nous nous retrouvons le mardi 7 octobre pour la conférence de Jean-Baptiste Fouvry, Comprendre l'évolution des galaxies avec la physique statistique. Les inscriptions à partir de demain matin pour ceux qui veulent nous rejoindre dans notre amphithéâtre. On sera heureux de vous accueillir. Et merci encore Frédéric pour cette conférence. Voilà. Bonsoir.